Chapitre 16. Découverte de l'Australie. La lune l'a frappé en plein visage. Il se croit seul dans la nuit, et voici certainement l'un des moments où il doit déposer le masque du jour. D'abord, les vitres noires ont cessé de protéger son regard incertain. Et si sa taille, pendant les heures de comédie, s'est fatiguée à se courber plus que de nature, si les épaules se sont très habilement arrondies, voici la minute où le grand corps de Larsan, sorti de scène, va se délasser. Qu'il se délasse donc. Je l'épie dans la coulisse, derrière les figuiers de Barbarie. Pas un de ses mouvements ne m'échappe. Maintenant, il est debout sur le boulevard de l'Ouest, qui lui est fait comme un piédestal. Les rayons lunaires l'enveloppent d'une lueur froide et funèbre. Est-ce toi, Darzac, ou ton spectre, ou l'ombre de Larsan revenu de chez les morts? Je suis fou. En vérité, il faut avoir pitié de nous, qui sommes tous fous. Nous voyons Larsan partout, et peut-être Darzac lui-même m'a-t-il regardé un jour, moi, à Saint-Clair, en se disant « Si c'était Larsan !» Un jour, je parle comme s'il y avait des années que nous étions enfermés dans ce château, et il y a tout juste 4 jours. Nous sommes arrivés ici le 8 avril, un soir. Sans doute, mais jamais mon cœur n'a ainsi battu quand je me posais la terrible question pour les autres. C'est peut-être aussi qu'elle était moins terrible quand il s'agissait des autres. Et puis c'est singulier ce qui m'arrive. Au lieu que mon esprit recule effrayé devant l'abîme d'une aussi incroyable hypothèse, au contraire, il est attiré, entraîné, horriblement séduit. Il a le vertige et il ne fait rien pour l'éviter. Il me pousse à ne point quitter des yeux le spectre debout sur le boulevard de l'Ouest, à lui trouver des attitudes, des gestes, une ressemblance par derrière, et puis aussi le profil, et puis aussi la face. Là, comme ça, il ressemble tout à fait à Larsan. Oui, mais comme ça, il ressemble tout à fait à Darzac. Comment se fait-il que cette idée me vienne cette nuit pour la première fois? Quand j'y songe, elle eût dû être notre première idée. Est-ce que, lors du mystère de la chambre jaune, la silhouette Larsan n'apparaissait point au moment du crime, tout à fait confondue avec la silhouette Darzac? Est-ce que le Darzac qui venait chercher la réponse de Mlle Stangerson au bureau de poste 40 n'était point Larsan lui-même? Est-ce que cet empereur du camouflage n'avait point déjà entrepris avec succès d'être Darzac, si bien qu'il avait réussi à faire accuser de ses propres crimes le fiancé de Mlle Stangerson? Sans doute, oui, sans doute, mais tout de même, si j'ordonne à mon cœur inquiet de se taire pour pouvoir entendre ma raison, je saurai que mon hypothèse est insensée. Insensée, oui, pourquoi? Tenez, le voilà, le spectre Larsan, qui allonge les grands ciseaux de ses jambes, qui marche comme Larsan, oui, mais il a les épaules de Darzac. Je dis insensé, parce que si l'on n'est pas Darzac, on peut tenter de l'être dans l'ombre, dans le mystère, de loin, comme lors des drames du Glandier. Mais ici, nous touchons l'homme, nous vivons avec lui. Nous vivons avec lui? Oh non! D'abord, il est rarement là, presque toujours enfermé dans sa chambre ou penché sur cet inutile travail de la tour du téméraire. Voilà, ma foi, un beau prétexte que celui de dessiner pour qu'on ne voit pas votre tête et pour répondre aux gens sans tourner la tête. Mais enfin, il ne dessine pas toujours. Oui, mais dehors, toujours, excepté ce soir, il a son binocle noir. Ah, cet accident du laboratoire a été des plus intelligents. Cette petite lampe qui a fait explosion savait, ou je l'ai toujours pensé, le service qu'elle allait rendre à Larsan lorsque Larsan aurait pris la place de Darzac. Elle lui permettait d'éviter toujours la grande lumière du jour à cause de la faiblesse des yeux. Comment donc? Il n'est point jusqu'à Mlle Stangerson et Rouletabille qui ne s'arrangeaient pour trouver les coins d'ombre où les yeux de M. Darzac n'avaient rien à redouter de la lumière du jour. Du reste, il a plus que tout autre, en y réfléchissant, depuis que nous sommes arrivés ici, cette préoccupation de l'ombre. Nous l'avons vu peu, mais toujours à l'ombre. Cette petite salle du conseil est fort sombre, la louve est sombre, et il a choisi des deux chambres de la tour carrée, celle qui reste toujours plongée dans une demi-obscurité. Tout de même, voyons, 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 on ne trompe pas Rouletabille comme ça, ne serait-ce que 3 jours. Cependant, comme dit Rouletabille, Larsan est né avant Rouletabille, puisqu'il est son père. Ah, je revois le premier geste de Darzac quand il est venu au-devant de nous à Cannes et qu'il est monté dans notre compartiment. Il a tiré le rideau de l'ombre toujours. Le spectre, maintenant, sur le boulevard de l'Ouest, s'est retourné de mon côté. Je le vois bien de face, pas de binocle. Il est immobile. Il est placé là comme si on allait le photographier. Ne bougez pas, là, ça y est. Eh bien, c'est Robert Darzac, c'est Robert Darzac. Il se remet en marche, je ne sais plus. Il y a quelque chose qui me manque dans la marche de Darzac pour que je reconnaisse la marche de Larsan. Mais quoi? Oui, Rouletabille aurait tout vu. Rouletabille raisonne plus qu'il ne regarde. Et puis a-t-il eu tellement le temps de regarder que cela? Non. N'oublions pas que Darzac est allé passer 3 jours dans le Midi. C'est vrai, ah, on peut raisonner là-dessus. 3 mois pendant lesquels on ne l'a pas vu. Il était parti malade, il était revenu bien portant. On ne s'étonne point que la figure d'un homme ait un peu changé quand, partie avec une mine de mort, elle réapparaît avec une mine de vivant. Et la cérémonie du mariage a eu lieu tout de suite. Comme il s'est montré à nous avec parcimonie avant et depuis. Et du reste, il n'y a pas encore une semaine de tout cela. Un Larsan peut tenir le coup pendant 6 jours. L'homme, Darzac, Larsan, descend de son piédestal du boulevard de l'Ouest et vient droit à moi. M'a-t-il vu? Je me fais plus petit derrière mon figuier de Barbarie. 3 mois d'absence pendant lesquels Larsan a pu étudier tous les tics, toutes les manifestations Darzac. Et puis on supprime Darzac et on prend sa place et sa femme. On l'emporte et le tour est joué. La voix, oh quoi de plus facile que d'imiter une voix du Midi. On a un peu plus ou un peu moins l'accent, voilà tout. Moi, j'ai cru observer qu'il l'avait un peu plus. Oui, le Darzac d'aujourd'hui a un peu plus l'accent, je crois, que celui d'avant le mariage. Il est presque sur moi. Il passe à mes côtés, il ne m'a pas vu. Non, c'est Larsan, je vous dis que c'est Larsan. Mais il s'arrête une seconde, regarde éperdument toutes ces choses endormies autour de lui dont la douleur veille solitaire, et il gémit comme un pauvre malheureux homme qu'il est. Oh, c'est Darzac. Et puis il est parti. Je suis resté là, derrière un figuier, dans l'anéantissement de ce que j'avais osé penser. Combien de temps restais-je ainsi prostré? 1 heure, 2 heures. Quand je me relevais, j'avais les reins rompus et l'esprit très fatigué. Oh, très fatigué! J'étais allé, au cours de mes étourdissantes hypothèses, jusqu'à me demander si, par hasard, par hasard, le larcin qui était dans le sac de pommes de terre, dite saucisse, ne s'était pas substitué au Darzac qui le conduisait dans la petite voiture anglaise traînée par Toby au gouffre du Puy de Castillon. Parfaitement, je voyais le corps à l'agonie, ressuscitant tout à coup et priant M. Darzac d'aller prendre sa place. Il n'avait fallu, pour que je le rejetasse loin de mon absurde cogitation, cette supposition imbécile, rien moins que le rappel de la preuve absolue de son impossibilité qui m'avait été donnée le matin même par une conversation très intime entre M. Darzac et moi au sortir de notre cruelle séance dans la tour carrée, séance pendant laquelle avaient été si bien établis tous les termes du problème du corps de trop. À ce moment, je lui avais posé, à propos du prince Galitch, dont la falote image ne cessait de me poursuivre, quelques questions auxquelles il avait tout de suite répondu, en faisant allusion à une autre conversation très scientifique que nous avions eue la veille. Darzac et moi, et qui n'avait pu matériellement être entendu de personne autre que de nous deux, au sujet de ce même prince Galitch. Lui seul connaissait cette conversation-là, et il ne faisait point de doute, par cela même, que le Darzac qui me préoccupait tant aujourd'hui n'était autre que celui de la veille. Si insensé que fut l'idée de cette substitution, on me pardonnera tout de même de l'avoir eue. Rouletabille en était un peu la cause avec ses façons de me parler de son père comme du dieu de la métamorphose. Et j'en revins à la seule hypothèse possible, possible pour un larcin qui aurait pris la place d'un Darzac, à celle de la substitution au moment du mariage, lors du retour du fiancé de Mlle Stangerson à Paris, après 3 mois d'absence dans le Midi. La plainte déchirante que Robert Darzac, se croyant seul, avait laissé échapper tout à l'heure à mes côtés, ne parvenait point à chasser tout à fait cette idée-là. Je le voyais entrant à l'église Saint-Nicolas du Chardonnay, paroisse à laquelle il avait voulu que le mariage eût lieu, peut-être, pensais-je, parce qu'il n'y avait point d'église plus sombre à Paris. Ah, on est très curieusement bête quand on se trouve par une nuit lunaire derrière un figuier de barbarie aux prises avec la pensée de larcin. Très, très bête, me disais-je, en regagnant tout doucement à travers les massifs de la baille le lit qui m'attendait dans une petite chambre solitaire du château neuf. Très bête, car, comme l'avait si bien dit Rouletabille, si larcin avait été alors Darzac, il n'avait qu'à emporter sa belle proie, il ne se serait plus complu à réapparaître à l'état de larcin pour épouvanter Mathilde, et il ne l'aurait pas amené au château fort d'Hercule, au milieu des siens, et il n'aurait pas pris la précaution désastreuse pour ses desseins de montrer à nouveau dans la barque de Tullio la figure menaçante de Roussel Ballmeyer. À ce moment, Mathilde lui appartenait, et c'est depuis ce moment qu'elle s'était reprise. La réapparition de larcin ravissait définitivement la dame en noir à Darzac, donc Darzac n'était pas larcin. Mon Dieu, que j'ai mal à la tête! C'est la lune éblouissante là-haut qui m'a frappé douloureusement la cervelle. J'ai un coup de lune. Et puis, n'était-il pas apparu à Arthur Rance lui-même dans les jardins de Menton, alors que Darzac venait d'être mis dans le train qui le conduisait à Cannes au-devant de nous? Si Arthur Rance avait dit vrai, Je pouvais aller me coucher en toute tranquillité. Mais et pourquoi Arthur Rance eût-il menti? Arthur Rance, encore un qui est amoureux de la dame en noir, qui n'a pas cessé de l'être. Mistress Edith n'est pas une sotte. Elle a tout vu, Mistress Edith. Allons, allons nous coucher. J'étais encore sous la poterne du jardinier, j'allais entrer dans la cour du téméraire, quand il m'a semblé entendre quelque chose. On eût dit une porte que le refermait. Cela avait fait comme un bruit de bois et de fer, de serrure. Je passai vivement la tête hors de la poterne, et je crus apercevoir une vague silhouette humaine près de la porte du Château-Neuf elle-même. J'armai mon revolver et en trois bonds entrai dans l'ombre à mon tour. Mais je n'aperçus plus rien que l'ombre. La porte du Château-Neuf était fermée, et je croyais bien me rappeler que je l'avais laissée entr'ouverte. J'étais très ému, très anxieux. Je ne me sentais pas seul. Mais qui donc pouvait être autour de moi? Évidemment, si la silhouette existait en dehors de ma vision et de mon esprit troublé, elle ne pouvait plus être maintenant que dans le Château-Neuf, car la cour du téméraire était déserte. Je poussai avec précaution la porte et entrai dans le Château-Neuf. J'écoutai attentivement et sans faire le moindre mouvement, au moins pendant 5 minutes. Rien. Je devais m'être trompé. Cependant, je ne fis point craquer l'allumette et le plus silencieusement que je pus, je gravis l'escalier et gagnai ma chambre. Là, je m'enfermai et seulement respirai à l'aise. Cette vision continuait cependant à m'inquiéter plus que je me l'avouais à moi-même, et bien que je me fusse couché, je ne parvenais point à m'endormir. Enfin, sans que je puisse en suivre la raison, la vision de la silhouette et la pensée de Darzac Larsan se mêlait étrangement dans mon esprit déséquilibré. Si bien que j'en étais arrivé à me dire « Je ne serai pas tranquille que lorsque je me serai assuré que M. Darzac lui-même n'est pas Larsan. » Et je ne manquerai pas de le faire à la prochaine occasion. « Oui, mais comment ?»« Lui tirer la barbe ?» Si je me trompe, il me prendra pour un fou et il devinera ma pensée. Elle ne sera point faite pour le consoler de tous les malheurs dont il gémit. Il ne manquerait plus à son infortune que d'être soupçonné d'être Larsan. Soudain, je rejetai mes couvertures, je m'assis sur mon lit et m'écriai « Mais l'Australie !» Je venais de me souvenir d'un épisode dont j'ai parlé au commencement de ce récit. On se rappelle que, lors de l'accident du laboratoire, j'avais accompagné M. Robert Darzac chez le pharmacien. Or, dans le moment qu'on le soignait, comme il avait dû ôter sa jaquette, la manche de sa chemise, dans un faux mouvement, s'était relevée jusqu'au coude et y avait été arrêtée pendant toute la séance, ce qui m'avait permis de constater que M. Darzac avait, près de la saignée du bras droit, une large tache de naissance dont les contours semblaient curieusement suivre le dessin géographique de l'Australie. Mentalement, pendant que le pharmacien opérait, je n'avais pu m'empêcher de placer sur ce bras, aux endroits qu'elles occupent sur la carte, Melbourne, Sydney, Adélaïde. Il y avait encore, sous cette large tache, une autre toute petite tache située dans les environs de la terre dite de Tasmanie. Et quand, par hasard, plus tard, il m'était arrivé de penser à cet accident, à la séance chez le pharmacien et à la tache de naissance, j'avais toujours pensé aussi, par une liaison d'idées bien compréhensible, à l'Australie. Et dans cette nuit d'insomnie, voilà que l'Australie encore m'apparaissait. Assis sur mon lit, j'avais eu à peine le temps de me féliciter d'avoir songé à une preuve aussi décisive de l'identité de Robert Darzac, et je commençais à agiter la question de savoir comment je pourrais bien m'y prendre pour me la fournir à moi-même, quand un bruit singulier me fit dresser l'oreille. Le bruit se répéta, on eût dit que les marches craquaient sous des pas lents et précautionneux. Haletant, j'allais à ma porte, et l'oreille à la serrure, j'écoutais. D'abord, ce fut le silence, et puis les marches craquèrent à nouveau. Quelqu'un était dans l'escalier, je ne pouvais plus en douter, et quelqu'un qui avait intérêt à dissimuler sa présence. Je songeais à l'ombre que j'avais cru voir tout à l'heure en entrant dans la cour du téméraire. Quelle pouvait être cette ombre et que faisait-elle dans l'escalier? Montait-elle? Descendait-elle? Un nouveau silence. J'en profitai pour passer rapidement mon pantalon, et armé de mon revolver, je réussis à ouvrir ma porte sans la faire geindre sur ses gonds. Retenant mon souffle, j'avançai jusqu'à la rampe de l'escalier et j'attendis. J'ai dit l'état de délabrement dans lequel se trouvait le château neuf. Les rayons funèbres de la lune arrivaient obliquement par les hautes fenêtres qui s'ouvraient sur chaque palier et découpaient avec précision des carrés de lumière blême dans la nuit opaque de cette cage d'escalier qui était très vaste. La misère du château ainsi éclairé par endroits n'en paraissait que plus définitive. La ruine de la rampe de l'escalier, les barreaux brisés, les murs lézardés contre lesquels, çà et là, de vastes lambeaux de tapisserie pendaient encore, tout cela, qui ne m'avait que fort peu impressionné dans le jour, me frappait alors étrangement, et mon esprit était tout prêt à me représenter ce décor lugubre du passé comme un lieu propice à l'apparition de quelques fantômes. Réellement, j'avais peur. L'ombre, tout à l'heure, m'avait si bien glissé entre les doigts, car j'avais bien cru la toucher. Tout de même, un fantôme peut se promener dans un vieux château sans faire craquer les marches d'escalier. Mais elle ne craquait plus. Tout à coup, comme j'étais penché au-dessus de la rampe, je revis l'ombre. Elle était éclairée d'une façon éclatante, de telle sorte que d'ombre qu'elle était, elle était devenue lueur. La lune l'avait allumée comme un flambeau. Et je reconnus Robert Darzac. Il était arrivé au rez-de-chaussée et traversait le vestibule en levant la tête vers moi comme s'il sentait peser mon regard sur lui. Instinctivement, je me rejetai en arrière. Et puis je revins à mon poste d'observation juste à temps pour le voir disparaître dans un couloir qui conduisait à un autre escalier desservant l'autre partie du bâtiment. Que signifiait ceci? Qu'est-ce que Robert Darzac faisait la nuit dans le château neuf? Pourquoi prenait-il tant de précautions pour n'être point vu? 1000 soupçons me traversèrent l'esprit, ou plutôt toutes les mauvaises pensées de tout à l'heure me ressaisirent avec une force extraordinaire, et sur les traces de Darzac, je m'élançai à la découverte de l'Australie. J'eus tôt fait d'arriver au corridor au moment même où il le quittait et commençai de gravir toujours fort prudemment les degrés vermoulus du second escalier. Caché dans le corridor, je le vis s'arrêter au premier palier et pousser une porte. Et puis je ne vis plus rien. Il était rentré dans l'ombre et peut-être dans la chambre. Je grimpai jusqu'à cette porte qui était refermée, et, sûr qu'il était dans la chambre, je frappai trois petits coups. Et j'attendis. Mon cœur battait à se rompre. Toutes ces chambres étaient inhabitées, abandonnées. Qu'est-ce que M. Robert Darzac venait faire dans l'une de ces chambres-là? J'attendis 2 minutes qui me parurent interminables, et comme personne ne me répondait, comme la porte ne s'ouvrait pas, je frappai à nouveau et j'attendis encore. Alors la porte s'ouvrit, et Robert Darzac me dit de sa voix la plus naturelle, « Oh, c'est vous, Sinclair? Que me voulez-vous, mon ami ?» « Je veux savoir, » fis-je, et ma main serrait au fond de ma poche mon revolver et ma voix à moi était comme étranglée, tant au fond j'avais peur. « Je veux savoir ce que vous faites ici à une pareille heure. » Tranquillement, il craqua une allumette et me dit « Vous voyez, je me préparais à me coucher. » Et il alluma une bougie que l'on avait posée sur une chaise, car il n'y avait même pas dans cette chambre délabrée une pauvre table de nuit. Un lit dans un coin, un lit de fer que l'on avait dû apporter là, dans la journée, composait tout l'ameublement. Je croyais que vous deviez coucher cette nuit à côté de Madame Darzac et du professeur au premier étage de la Louve. Bon, l'appartement était trop petit. J'aurais pu gêner Madame Darzac, fit amèrement le malheureux. J'ai demandé à Bernier de me donner un lit ici. Et puis, oh, peu m'importe où je couche puisque je ne dors pas. Nous restâmes un instant silencieux. J'avais tout à fait honte de moi et de mes combinaisons saugrenues. Et franchement, mon remords était tel que je ne pus en retenir l'expression. Je lui avouai tout, mes infâmes soupçons, et comment j'avais bien cru en le voyant errer si mystérieusement de nuit dans le Château-Neuf, avoir affaire à Larsan, et comment je m'étais décidé à aller à la découverte de l'Australie. Car je ne lui cachais même pas que j'avais mis un instant tout mon espoir dans l'Australie. Il m'écoutait avec la face la plus douloureuse du monde, et tranquillement, il releva sa manche, et approchant son bras nu de la bougie, il me montra la tache de naissance qui devait me faire entrer dans mes esprits. Je ne voulais point la voir, mais il insista pour que je la touchasse, et je dus constater que c'était là une tache très naturelle, et sur laquelle on eût pu mettre des petits points avec des noms de villes, Sydney, Melbourne, Adélaïde, et en bas il y avait une autre petite tache qui représentait la Tasmanie. « Vous pouvez frotter, » dit-il encore de sa voix absolument désabusée. « Ça ne s'en va pas. » Je lui demandai encore pardon, les larmes aux yeux, mais il ne voulut me pardonner que lorsqu'il m'eut forcé à lui tirer la barbe à laquelle ne resta point dans la main. Alors seulement il me permit d'aller me recoucher, ce que je fis en me traitant d'imbécile. Chapitre 17. Terrible aventure du vieux Bob. Quand je me réveillais, ma première pensée courut encore à Larsan. En vérité, je ne savais plus que croire, ni moi ni personne, ni sur sa mort, ni sur sa vie. Était-il moins blessé qu'on ne l'avait cru? Que dis-je, était-il moins mort qu'on ne l'avait pensé? Avait-il pu s'enfuir du sac jeté par Darzac au gouffre de Chaxtillon? Après tout, la chose était fort possible, ou plutôt l'hypothèse, n'allait point au-dessus des forces humaines d'un larcin, surtout depuis que Walter avait expliqué qu'il avait trouvé le sac à 3 mètres de l'orifice de la crevasse, sur un palier naturel dont M. Darzac ne soupçonnait certainement pas l'existence quand il avait cru jeter la dépouille de larcin à l'abîme. Ma seconde pensée alla à Rouletabille. Que faisait-il pendant ce temps? Pourquoi était-il parti? Jamais sa présence au fort d'Hercule n'avait été aussi nécessaire. S'il tardait à venir, cette journée ne se passerait point sans quelque drame entre les Rance et les Darzac. C'est alors que l'on frappa à ma porte et que le père Bernier m'apporta justement un bref billet de mon ami qu'un petit voyou de la ville venait de déposer entre les mains du père Jacques. Rouletabille me disait « Serait de retour ce matin, levez-vous vite et soyez assez aimable pour aller me pêcher pour mon déjeuner de ces excellentes palourdes qui abondent sur les roches qui précèdent la pointe de Garibaldi. Ne perdez pas un instant, amitié et merci, Rouletabille. » Ce billet me laissa tout à fait songeur, car je savais par expérience que lorsque Rouletabille paraissait s'occuper de babiole, jamais son activité ne portait en réalité sur des objets plus considérables. Je m'habillai à la hâte et armé d'un vieux couteau que m'avait prêté le père Bernier, je me mis en mesure de contenter la fantaisie de mon ami. Comme je franchissais la porte du Nord, n'ayant rencontré personne à 7 heures matinale, ou il pouvait être 7 heures, je fus rejoint par Mistress Edith, à qui je fis part du petit mot de Rouletabille. Mistress Edith, que l'absence prolongée du vieux Bob affolait tout à fait, le trouva bizarre, inquiétant, et elle me suivit à la pêche aux palourdes. En route, elle me confia que son oncle n'était point ennemi de temps à autre d'une petite fugue, et qu'elle avait, jusqu'à 7 heures, conservé l'espoir que tout s'expliquerait par son retour. Mais maintenant l'idée recommençait à lui enflammer la cervelle d'une affreuse méprise qui aurait fait le vieux Bob victime de la vengeance des Darzac. Elle proféra, entre ses jolies dents, une sourde menace contre la dame en noir, ajouta que sa patience durait jusqu'à midi, et puis ne dit plus rien. Nous nous mîmes à pêcher les palourdes de Rouletabille. Mistress Edith avait les pieds nus, moi aussi, mais les pieds nus de Mistress Edith m'occupaient beaucoup plus que les miens. Le fait est que les pieds de Mistress Edith, que j'ai découverts dans la mer d'Hercule, sont les plus délicats coquillages du monde, et qu'ils me firent si bien oublier les palourdes que ce pauvre Rouletabille s'en serait certainement passé à son déjeuner si la jeune femme l'avait montré un si beau zèle. Elle clapotait dans l'onde amère et glissait son couteau sous les rocs avec une grâce un peu énervée qui lui seyait plus que je ne saurais dire. Tout à coup, nous nous redressâmes tous deux et tendîmes l'oreille d'un même mouvement. On entendait des cris du côté des grottes. Au seuil même de celle de Roméo et Juliette, nous distinguâmes un petit groupe qui faisait des gestes d'appel. Poussés par le même pressentiment, nous regagnâmes à la hâte le rivage. Bientôt, nous apprenions qu'attirés par des plaintes, 2 pêcheurs venaient de découvrir dans un trou de la grotte de Roméo et Juliette un malheureux qui était tombé et qui avait dû y rester de longues heures évanoui. Nous ne nous étions pas trompés. C'était bien le vieux Bob qui était au fond du trou. Quand on l'eut tiré au bord de la grotte dans la lumière du jour, il apparut certainement digne de piété, car dans sa belle redingote noire, Il était sale, fripé, elle était arrachée. Puis ça s'est dit, ne put retenir ses larmes, surtout quand on se fut aperçu que le vieil homme avait une clavicule démise, un pied foulé, et il était si pâle qu'on eût pu croire qu'il allait mourir. Heureusement, il n'en fut rien. 10 minutes plus tard, il était, sur les ordres qu'il donna, étendu sur son lit dans sa chambre de la tour carrée. Mais peut-on imaginer que cet entêté refusa de se déshabiller et de quitter sa redingote avant l'arrivée des médecins? Mistress Edith, de plus en plus inquiète, s'installait à son chevet. Mais quand arrivèrent les docteurs, le vieux Bob exigea de sa nièce qu'elle quittât sur le champ et qu'elle sortît de la tour carrée. Et il en fit même fermer la porte. Cette précaution dernière nous surprit beaucoup. Nous étions réunis dans la cour du Téméraire, M. et Mme Darzac, M. Arthur Rance et moi, ainsi que le père Bernier, qui me guettait drôlement, attendant des nouvelles. Quand Mistress Edith sortit de la tour carrée après l'arrivée des médecins, elle vint à nous et nous dit « Espérons que ça ne sera pas grave. Le vieux Bob est solide. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je l'ai confessé. C'est un vieux farceur. Il a voulu voler le crâne du prince Galitch. Jalousie de savant. Nous rirons bien quand il sera guéri. » Alors la porte de la tour carrée s'ouvrit et Walter, le fidèle serviteur du vieux Bob, parut. Il était pâle, inquiet. « Oh, mademoiselle, dit-il, il est plein de sang. Il ne veut pas qu'on le dise, mais il faut le sauver. » Mistress Edith avait déjà disparu dans la tour carrée. Quant à nous, nous n'osions avancer. Bientôt, elle réapparut. « Oh ! » nous fit-elle, « c'est affreux, il a toute la poitrine arrachée. » J'allais lui offrir mon bras pour qu'elle s'y appuyât, car, chose singulière, M. Arthur Rance était dans ce moment éloigné de nous et se promenait sur le boulevard, les mains derrière le dos, en sifflotant. J'essayais de réconforter Mistress Edith, et je la plaignis, même si ni Mme Darzac ni monsieur ne la plaignirent. Rouletabille arriva au château 1 heure après l'événement. Je guettais son retour du haut du boulevard de l'Ouest, et sitôt que je le vis sur le bord de la mer, je courus à lui. Il me coupa la parole dès ma première demande d'explication, et me demanda tout de suite si j'avais fait une bonne pêche, mais je ne me trompais point à l'expression de son regard inquisiteur. Je voulus me montrer aussi malin que lui, et je répondis « Oh, oh, une très bonne pêche, j'ai repêché le vieux Bob. » Il sursauta. Je haussai les épaules, car je croyais à de la comédie, et je lui dis « Allons donc, vous saviez bien où vous nous conduisiez avec votre pêche et votre dépêche. » Il me fixa d'un air étonné. « Mais vous ignorez certainement en ce moment quelle peut être la portée de vos paroles, mon cher Sinclair, sans quoi vous m'auriez évité la peine de protester contre une pareille accusation. »« Mais quelle accusation ? » m'écriai-je. Celle d'avoir laissé le vieux Bob au fond de la grotte de Roméo et Juliette, sachant qu'il y agonisait. « Oh, oh, fiche, calmez-vous et rassurez-vous. Le vieux Bob n'est pas à l'agonie. Il a un pied foulé, une épaule démise, ce n'est pas grave. Et son histoire est la plus honnête du monde. Il prétend qu'il voulait voler le crâne du prince Galitch. » « Quelle drôle d'idée ! » ricala Rouletabille. Il se pencha vers moi, et les yeux dans les yeux, « Vous croyez à cette histoire-là, vous ? Bon, et c'est tout, pas d'autres blessures? Oh, si, fige, il y a une autre blessure, mais les docteurs viennent de la déclarer sans gravité aucune. Il a la poitrine déchirée. La poitrine déchirée? Reprit Rouletabille en me serrant nerveusement la main. Et comment est-elle déchirée, cette poitrine? Bon, nous ne savons pas, nous ne l'avons pas vue. Le vieux Bob est d'une étrange pudeur. Il n'a point voulu quitter sa redingote devant nous. Et sa redingote cachait si bien sa blessure que nous ne nous serions jamais doutés de cette blessure-là si Walter n'était venu nous en parler, épouvanté qu'il était par le sang qu'elle avait répandu. Aussitôt arrivés au château, nous tombâmes sur Mistress Edith qui semblait nous chercher. Mon oncle ne veut point de moi à son chevet, fit-elle en regardant Rouletabille avec un air d'anxiété que je ne lui avais jamais encore connu. C'est incompréhensible! Oh, madame, répliqua le reporter, en adressant à notre gracieuse hôtesse son salut le plus cérémonieux, je vous affirme qu'il n'y a rien au monde d'incompréhensible quand on veut un peu se donner la peine de comprendre. Et il la félicita d'avoir retrouvé un si bon oncle dans le moment qu'elle le croyait perdu. Mistress Edith, tout à fait renseignée sur la pensée de mon ami, allait lui répondre quand nous fûmes rejoints par le prince Galitch. Il venait chercher des nouvelles de son ami vieux Bob, ayant appris l'accident. Mistress Edith le rassura sur les suites de l'équipée de son fantastique oncle et pria le prince de pardonner à son parent son amour excessif pour les plus vieux crânes de l'humanité. Le prince sourit avec grâce et politesse quand elle lui narra le vieux Bob que le vieux Bob avait voulu le voler. Vous retrouverez votre crâne, dit-elle, au fond de la grotte où il a roulé avec lui. C'est lui qui me l'a dit. Rassurez-vous donc, prince, pour votre collection. Le prince demanda encore des détails. Il semblait très curieux de l'affaire. Et Mistress Edith raconta que l'oncle lui avait avoué qu'il avait quitté le fort d'Hercule par le chemin du puits qui communique avec la mer. Aussitôt qu'il eut encore ajouté cela, comme je me rappelais l'expérience du seau d'eau de Rouletabille, et aussi les ferrures fermées, les mensonges du vieux Bob reprirent dans mon esprit des proportions gigantesques. Et j'étais sûr qu'il devait en être de même pour tous ceux qui nous entouraient, s'ils étaient de bonne foi. Enfin, Mistress Edith nous dit que Tullio l'avait attendu avec sa barque à l'orifice de la galerie aboutissant au puits pour le conduire au rivage devant la grotte de Roméo et Juliette. Que de détours, ne puis-je m'empêcher de m'écrier, quand il était si simple de sortir par la porte. Mistress Edith me regarda douloureusement, et je regrettai aussitôt d'avoir pris aussi manifestement parti contre elle. Mais voilà qui est de plus en plus bizarre, fit remarquer encore le prince. Avant-hier matin, le bourreau de la mer était venu prendre congé de moi, car il quittait le pays, et je suis sûr qu'il a pris le train pour Venise, son pays d'origine, à 5 heures du soir. Mais comment voulez-vous qu'il ait conduit le monsieur vieux Bob sur sa barque la nuit suivante? D'abord, il n'était plus là, ensuite, il avait vendu sa barque, m'a-t-il dit, ayant décidé de ne plus revenir dans le pays. Il y eut un silence, et puis Galitch reprit. Oh, tout ceci n'a que peu d'importance, pourvu que votre oncle, madame, guérisse rapidement de ses blessures, et aussi, ajouta-t-il, avec un nouveau sourire encore plus charmant que tous les précédents, si vous voulez bien m'aider à retrouver un pauvre caillou qui a disparu de la grotte et dont je vous donne le signalement. Un caillou aigu de 25 centimètres de long et usé à l'une de ses extrémités en forme de grattoir. Bref, le plus vieux grattoir de l'humanité. J'y tiens beaucoup, appuya le prince. Et peut-être pourriez-vous savoir, madame, auprès de votre oncle, vieux Bob, ce qu'il est devenu. Mistress Edith promit aussitôt au prince, avec une certaine hauteur, qui me plut, qu'elle ferait tout au monde pour que ne s'égare à point un aussi précieux grattoir. Le prince salua et nous quitta. Quand nous nous retournâmes, M. Arthur Rance était devant nous. Il avait dû entendre toute cette conversation et semblait y réfléchir. Il avait sa canne à bec de corbin dans la bouche, sifflotait, selon son habitude, et regardait Mistress Edith avec une insistance si bizarre que celle-ci s'en montra agacée. « Je sais, » fit la jeune femme, « je sais ce que vous pensez, monsieur, et je n'en suis nullement étonné, croyez-le bien. » Et elle se retourna singulièrement énervée du côté de Rouletabille. « En tout cas, » s'écria-t-elle, « vous ne pourrez jamais m'expliquer comment, puisqu'il était hors de la tour carrée, il aurait pu se trouver dans le placard. » Madame, fit Rouletabille, en regardant bien en face Mistress Edith, comme s'il eût voulu l'hypnotiser, patience et courage. Si Dieu est avec moi avant ce soir, je vous aurai expliqué ce que vous me demandez là.